Bonjour à Lise, bonjour à Didier et rebonjour à Tania, Queen qui est en fait Marie-Huguette. Voilà, alors on va prier et après ça on débute notre dernière exhortation de cette semaine. Merci Seigneur pour cette journée que tu as suscitée pour nous et cette occasion que tu nous donnes Seigneur de plonger nos regards dans ta parole. Ta parole est encore remplie de richesses, de trésors pour nous tous, mais surtout d'instructions quant à comment mener nos vies afin de t'être agréable et afin d'être utile dans l'avancement de ton royaume. J'appelle, Seigneur, ta bénédiction sur tous ceux qui se joignent à nous ce matin afin de prendre ce temps de pause et d'étudier un peu ce texte. Que nous souhaitons, Seigneur, une source de bénédiction, d'instruction et d'édification pour nous tous. Ouvre notre entendement, ouvre notre compréhension. Surprends-nous, étonne-nous, parle-nous, transforme-nous, façonne-nous. En fait, Seigneur, fais ce qu'il te plaira de nos vies aujourd'hui, en accord avec ta parole. Que cette parole, Seigneur, qui sera prononcée aujourd'hui, ne retourne pas à toi sans avoir porté le fruit pour lequel, Seigneur, elle est proclamée. Tu avais prévu cette journée, tu avais prévu ce moment, que tu puisses, Seigneur, l'utiliser pleinement à ta gloire et simplement qu'à ta gloire. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, bien le bonjour à tous encore une fois. On prendra quelques instants tout à l'heure, s'il nous reste du temps pour saluer tous ceux qui, se sont joints à nous, qui se joindront à nous dans les prochaines minutes. Simplement vous rappeler le verset thème pour cette semaine, ou les versets thèmes pour cette semaine, qui étaient dans Jean au chapitre 6, les versets 68 et 69, que je relis pour vous. Jean 6, versets 68 et 69, la Bible nous dit: Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Je répète, Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Je sais que dans certaines versions, vous pouvez avoir soit le texte qui vous dit: Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans d'autres, vous allez avoir une version qui vous dit: Nous avons cru et connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et dans d'autres, vous allez tout simplement avoir: Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Foncièrement, je vais étudier ou expliquer ces trois traductions, ou les mots qui ont été pris pour ces trois traductions. En fait, si le texte diffère d'une traduction à une autre, d'une version à une autre, c'est simplement que certains textes anciens que nous avons vont avoir, concernant l'évangile de Jean, l'un ou l'autre ou les trois points qui ont été mentionnés aujourd'hui. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Saint de Dieu, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rappelons simplement à quel moment se passe ce texte. Ce texte se passe dans un moment où plusieurs disciples, parce que les enseignements de Jésus étaient lourds de conséquences et étaient lourds d'engagement, alors plusieurs disciples ont décidé de quitter et de partir. Plusieurs disciples ont décidé de s'éloigner de Jésus. Et Jésus va demander à ceux qui restent, à ses principaux bras droits, aux 12, qu'on va par la suite appeler des apôtres, il va demander à ces 12: est-ce que vous ne voulez pas aussi quitter comme les autres? En parallèle à cette conversation, dans les autres évangiles, donc dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, on relate cette conversation en l'amenant d'une autre manière. Cette conversation où Jésus va dire: Qui dit-on que je suis? Et certains disciples vont lui dire: Ben, il y en a qui pensent que tu es la réincarnation. de Jean-Baptiste. Alors qu'à un moment donné, ben, Jean-Baptiste et Jésus étaient là au même endroit en même temps. Donc, assez bizarre comme interprétation. Mais certains prétextaient que Jésus était la réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres vont dire, certains disent que tu es Élie. Et l'Ancien Testament annonçait que Élie, l'esprit d'Élie, allait revenir comme dans un deuxième Élie. Et certains disaient, ben voilà, tu es ce deuxième grand prophète qu'était Élie. Pierre, lui, va se manifester en disant, et parce que Jésus va poser la question, ok, mais ça c'est tout ce que les autres disent, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va avoir cette déclaration somptueuse, merveilleuse, qui lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, on regarde ce moment-là, et c'est un moment charnière dans l'engagement des disciples. C'est un moment intime entre Jésus et ses proches, mais c'est aussi le moment où Pierre, et je crois comme étant le porte-voix de ses collègues, va se manifester pour une toute première fois publiquement. Nous sommes avec toi, Jésus, et nous savons qui tu es. Et cette réponse de Pierre ne semble pas ni forcée, ni hésitante, mais on dirait que c'est tellement fort en lui qu'il l'exprime avec toute la vivacité et avec toute l'émotion qu'on connaît de Pierre. Et Jésus va même dire, suite à cette déclaration de Pierre, « Mais ceci ne t'a pas été révélé par l'homme, par la chair, mais c'est Dieu lui-même qui t'a inspiré et qui t'a révélé cela. » Alors imaginez un peu, de toute l'histoire du peuple d'Israël, de toute l'histoire de l'humanité, on attend un Messie. On attend quelqu'un qui va venir contrecarrer, qui va venir défaire tout ce que Adam et Ève, par leur péché, ont entraîné dans la race humaine. Et là, on l'appelle le Messie. De génération en génération, on l'attend, on l'espère, on l'annonce. Et là, Pierre, pour une toute première fois, il est quelqu'un qui peut dire, « Voici, j'ai vu le Christ, j'ai vu le Messie », sans se méprendre, sans amener les gens vers un faussaire, mais en ayant effectivement devant lui le seul, l'unique, le Messie que Dieu avait annoncé. Alors, Pierre l'a fait avec toute l'émotion de son cœur. On dirait que lorsqu'il s'exprime à Jésus ici, c'est comme si cette révélation, ce constat qu'il vient adresser est trop fort. Et il est fort parce que Pierre va dire à Jésus, « Regarde, on n'a personne d'autre vers qui aller. Une fois qu'on a compris qui tu es, une fois qu'on a saisi quel privilège nous avons de te connaître et d'être devant toi, nous n'avons personne vers qui aller. » Et lorsque Pierre va dire, « Mais à qui irions-nous, Seigneur? » C'est effectivement ça qu'il dit. « Comment se pourrait-il, Seigneur, qu'on t'abandonne pour se tourner vers quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, que ce soit une espèce de déité, une divinité quelconque, ou que ce soit pour mener nos vies par nous-mêmes? » Jésus leur posait la question, « Mais est-ce que vous ne voulez pas partir? » Et Pierre va leur répondre, « Mais il ne sert à rien qu'on parte, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. » Et il va continuer en disant, « Nous avons cru que tu es le Christ, le Saint, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Nous avons non seulement cru, mais nous avons connu, nous avons expérimenté, et nous nous sommes liés à toi. Nous nous sommes engagés à toi qui es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. » Et on va reprendre chacune de ces expressions en essayant de sortir, mais qu'est-ce que Pierre avait compris? Qu'est-ce que Pierre et les 11 autres avaient compris? Je serais tenté de dire les 12 autres parce que parmi les 11, il y avait Judas. Et c'est quand même un enseignement pour nous. Ça veut dire qu'on peut reconnaître, à l'instar des autres, que Christ est le Messie, est le Maître, est le Seigneur, est la seule source de salut pour l'humanité. Mais on pourrait vivre, à l'instar de Judas, tout simplement avec une connaissance intellectuelle de la chose, sans un engagement et sans un attachement profond. Combien de fois on voit des gens qui disent marcher avec Dieu qui disent avoir une foi, mais dont la vie de tous les jours n'est pas ni orientée, ni dirigée, ni conduite, et qui n'appartient pas à Christ. Donc, je te pose la question pour toi, pour que tu te poses la question, je te lance le questionnement à toi. Est-ce que Christ est effectivement le Seigneur de ta vie? Et mènes-tu une vie comme Pierre, qui malgré des failles, malgré même son reniement de Christ, va quand même revenir à lui avec toute sincérité et avec une plénitude de cœur envers Christ? Ou tu vas suivre plutôt le Seigneur comme Judas, prêt à l'abandonner et à capituler un jour quant à Christ? Alors tu peux fréquenter l'Église, tu peux te proclamer sauvé, tu peux te proclamer être un disciple, mais ne pas avoir les fruits même de cette vie de disciple qui est appelée ou qui est exhortée, qui est demandée par Christ. Alors, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ. Christ, le terme en grec Christos, qui s'écrit comme Christ et vous rajoutez OS à la fin, donc C-H-R-I-S-T-O-S, je répète, C-H-R-I-S-T-O-S, et Christ veut dire loin, celui qui a été loin pour un mandat, celui qui a été loin pour une cause ou une œuvre, le Messie, celui qui a été appelé, qui a été appointé pour une chose. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un était élu pour ou établi pour un service quelconque, que ce soit pour être roi, pour être prophète, pour être sacrificateur, il y avait une cérémonie officielle qui se faisait avec une onction d'huile qu'on appliquait sur le serviteur qui commençait son travail. Lorsque David va être appelé à être roi, on se rappelle qu'on va déverser sur lui une corne remplie d'huile et on va le proclamer roi, bien que sa royauté et son règne ne vont commencer que plusieurs années plus tard à la mort de Saül. Mais déjà dans son jeune âge, on a déjà appliqué une onction sur lui pour le proclamer roi. Et ici, l'onction représentait donc un statut, un appel, un mandat particulier qui est donné à quelqu'un. Ça veut dire que de toute éternité, parce que Christ est tout simplement la manifestation physique de Dieu sur terre, Christ existe éternellement. Ça veut donc dire que Christ, Jésus, a été pensé, était planifié, était appelé de toute éternité pour être le Messie et le Sauveur. Ça, c'est un concept qui est merveilleux. Ça veut dire que même avant que l'homme n'ait été créé, avant que l'homme n'ait commis le premier péché dans le jardin d'Éden, qui a après cela amené ou entraîné la déchéance de l'humanité, avant même que la première faute soit commise, Dieu avait déjà pensé, préparé, planifié, appointé un sauveur pour remédier à la situation. Ça veut dire que Dieu est tout le temps, mais des millions et des millions et des millions de pas avant toi et moi. Il est déjà en train de préparer ton chemin. Au même titre où nous sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur, nous sommes appelés à être cette voix dans le désert qui proclame la venue du Sauveur, qui proclame le retour de Christ en tant qu'Église, mais le Seigneur lui-même prépare aussi notre chemin. Et au même titre où nous avons été appointés avant même le ventre de notre mère, depuis l'éternité, à l'instar de Jérémie, de qui Dieu va dire, « Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé et établi prophète des nations. » Donc, avant même que tu ne sois né, Dieu avait déjà un plan pour toi, Dieu avait déjà un propos pour toi. Mais au-delà même de ce propos, de cette œuvre ou de cette action que tu dois mener pour Dieu, Dieu avait déjà prévu, pensé, planifié et pourvu à un sauveur pour ta vie. Avant même que tu n'aies commis ton premier péché, avant même que tu n'aies crié ton premier cri, avant même que tu n'aies pris ta première bouffée d'air, Dieu avait déjà éternellement prévu un sauveur pour ta vie. Dieu pensait à toi de toute éternité. Dieu pensait à moi de toute éternité. Et Dieu voulait s'assurer que nous ayons toutes les opportunités, toutes les occasions de nous retourner vers lui, de nous tourner de nouveau vers le Seigneur et de le reconnaître comme notre sauveur, de le recevoir comme le Messie de notre existence. Donc Christ, loin le Messie, celui qui a été pensé, planifié, appelé pour être le sauveur de l'humanité avant même que toi et moi nous n'existions et avant même que le premier homme et la première femme n'aient commis ce péché initial. Parce que Dieu nous aimait, il avait déjà prévu. C'est pas un en cas, parce que c'était pas en cas que l'homme pêche, parce qu'il savait que l'homme allait pécher. Mais avant même qu'il ne crée cet homme-là, cette femme-là, initialement, il avait déjà pensé, il avait déjà pourvu tout ce que ça prenait, même pour notre faux pas. Est-ce que c'est pas un Dieu d'amour? Est-ce que c'est pas un Dieu de grâce qui, avant même que tu ne pêches, pourvoit déjà le moyen de te sauver? Il va dire, nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais on va s'arrêter tout simplement ici, dans le Fils de Dieu. Le Fils, c'est le terme Huios, H-U-I-O-S, H-U-I-O-S, qui veut dire, bien entendu, la progéniture, la création, celui qui émane d'un père ou d'un créateur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es cette création parfaite de Dieu. Et j'aimerais te rappeler que de toute la création que l'histoire de l'homme a connue, que ce soit la terre même, que ce soit l'univers, que ce soit les anges, que ce soit l'être humain, rien n'est parfait comme Christ est parfait. Aujourd'hui, on a été capable de contaminer la lune en allant se promener dessus. Aujourd'hui, il y a un tas de détritus qui se promènent dans l'espace autour de la Terre avec tout ce qu'on a laissé dans l'espace, dans ces voyages spatiaux qu'on fait. Il y a un tas de satellites qui meurent et qui continuent à tourner et qui sont comme des conteneurs de poubelles qui sont dans l'espace. Alors non seulement on a corrompu cette Terre, non seulement on voit que cette Terre se déglingue, qu'elle va de moins en moins bien et qu'elle se détériore de jour après jour, mais on a réussi à faire la même chose dans l'espace. Le seul, l'unique, qui est parfait, qui n'est pas taché par le péché, c'était Christ. Quand il va dire « tu es le Fils de Dieu », il regardait Jésus en disant « mais tu émanes de la perfection même de Dieu ». Et il avait tout à fait raison, parce que Jésus, étant Dieu lui-même, n'avait pas commis de péché. Non pas qu'il n'a pas été tenté, parce que la Bible nous dit qu'en tant qu'homme, puisqu'il était 100% homme et 100% Dieu, Jésus a été tenté en toutes choses. Mais durant toute cette période de tentation, durant ses 33 années de vie, il a refusé le péché. Il a refusé la tentation. Et ça, ce n'était pas un don spirituel. Ça, ce n'était pas parce qu'il était Dieu qu'il était capable de résister à la tentation. Mais c'est parce qu'il avait pris la décision en tant qu'homme de ne pas pécher. Et la Bible va nous dire que par l'acte de justice d'un seul, donc par l'acte de perfection d'un seul, par l'acte qui n'est pas taché par la faute, qui n'est pas taché par le péché, par l'acte de Jésus, nous avons tous accès au salut. Donc il est encore aujourd'hui la plus parfaite création de Dieu. Il est l'unique et le parfait sauveur. Lorsque Pierre le regardait et il disait « Seigneur, mais à qui irions-nous ? Non seulement tu es le Messie, mais lorsqu'on te regarde, on voit la perfection même de Dieu qui émane de toi. » Et lorsqu'on a cette conception, lorsqu'on comprend cela, on se dit effectivement, mais à qui irions-nous? Malheureusement, on perd de vue cette réalité en tant que croyant. On est tellement habitué à notre liturgie, chrétienne, à notre façon de faire la religion, à notre façon de faire à l'Église, à notre façon de vivre la chrétienté, qu'à un moment donné, on perd de vue le centre même, l'essence même de notre croyance qui est Jésus. Et si on a effectivement cru, et si on a effectivement connu Jésus, ben on ne peut pas s'en détourner, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas vivre sous notre propre égide, sous notre propre chef, ou se tourner vers d'autres prétendues divinités ou déités. Lorsqu'on a vraiment connu et cru en Jésus, on ne peut que rester ébahi devant la perfection de ses œuvres, la perfection de sa pensée. Alors j'appelle chez toi à retourner à ces sentiments d'émerveillement, à la contemplation de Jésus en disant « Mais tu es le Seigneur parfait, tu es le Sauveur parfait, de toi émane même la perfection totale. » La Bible nous dit qu'en lui résidait la perfection ou la divinité parfaite de Dieu en lui. Et cette chose-là, est-ce qu'elle t'étonne? Est-ce qu'elle te surprend? Est-ce qu'elle t'émerveille encore aujourd'hui? Ou t'es tellement habitué à l'histoire de Jésus, t'es tellement habitué à la chrétienté, t'es tellement habitué à tes pratiques dites chrétiennes, qu'aujourd'hui ça devient presque banal de parler de Jésus. Il va dire, j'ai cru et j'ai connu, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Non seulement tu émanes de la perfection même de Dieu, mais de surcroît à cela, nous savons que ce Dieu est vivant. Lorsqu'on te voit, on sait que ce Dieu est vivant. Lorsqu'on parle du Dieu vivant, c'est Theos Zao, Theos pour Dieu, T-H-E-O-S, et Zao qui veut dire celui qui existe, celui de qui émane la vie. Lorsque Pierre lui dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », c'est que non seulement tu es ce Dieu personnifié, ce Dieu fait homme, mais nous comprenons que de toi émane la vie. Lorsque Pierre va parler comme quoi il est le Fils du Dieu vivant, il est en train de parler de Yahweh, il est en train de parler de Elohim, il est en train de parler de l'Éternel, qui sont trois noms pour ce même seul Créateur de l'univers. Et il est en train de dire, voilà tous ceux que nos pères ont adorés, tous ceux que nos pères nous ont enseignés. Nous savons qu'il est vivant et nous le voyons en toi et nous savons que c'est de lui que nous tirons notre existence. Et si on tire notre existence de Jésus, si on tire notre existence de ce Dieu fait homme, comment pourrions-nous nous en détourner? Comment pourrions-nous, du jour au lendemain, décider, je m'en vais, je sais comment on peut le faire, c'est une décision personnelle. Je vous ai déjà raconté qu'à un moment donné, dans mon époque un peu difficile, j'ai dit à Dieu, regarde mon dos parce que c'est la dernière chose que tu vois, je m'en vais, je m'éloigne de toi. Et je suis parti, ou j'ai tenté de m'éloigner de Dieu, mais à l'instar de David qui va dire, regarde, si je vais dans le séjour des morts, tu y es, si je monte au ciel, tu y es, si je vais à l'Occident, à l'Orient, t'y voilà encore. Peu importe où j'allais, la présence de Dieu était là et je ne pouvais pas renier que j'avais cru et que je savais, que je connaissais qu'il était le Christ. Lorsque tu as vraiment cru et connu, tu ne peux pas mentir et dire « Non, c'est pas vrai, je n'ai pas cru. Non, c'est pas vrai, je ne sais pas. » Tu peux décider de faire fi de ta croyance, mais au fin fond de toi, tu sais exactement où se trouve la vérité. Alors je prie si aujourd'hui tu passes par un moment où effectivement tu t'es éloigné, si tu passes par un moment et tu te dis, mais par hasard, je vais écouter ce que le pasteur a à nous dire ce matin, et là tu te rends compte, effectivement, je suis de ceux qui ont décidé de s'éloigner, je suis de ceux qui ont décidé d'abandonner le Seigneur. Sache une chose, sa présence est encore autour de toi. Il est encore accessible. Parce que tu as le souffle de vie, tu peux encore tirer de lui la vie pour ton existence. Tu peux encore tirer de lui la vie éternelle qu'il donne à ses enfants. Alors je prie effectivement que tu puisses te tourner vers lui et lui dire, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mon iniquité, pardonne mon péché, et que tu puisses lui donner ta vie, lui confier ton existence, pour qu'il soit non seulement le sauveur de ta vie, mais aussi le maître et le seigneur de ta vie, et qu'il te conduise pas à pas dans ce chemin qui est la vie ici-bas sur terre. Alors oui, nous avons connu que tu es le Christ. Oui, Seigneur, nous avons connu que tu es le Fils de Dieu, la perfection même de Dieu qui n'est pas tachée par le péché. Nous savons, Seigneur, que c'est de toi qu'émane la vie éternelle et que nous tirons même notre propre existence. Mais nous avons connu aussi, dans l'autre traduction, que tu es le Saint de Dieu. Tu es le Hagios de Dieu. Hagios, H-A-G-I-O-S, H-A-G-I-O-S, de Theos, T-H-E-O-S. Hagios veut dire ce qui est le saint parmi tout ce qui est saint. Le saint des saints, le très saint. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait du tabernacle, il y avait comme trois sections dans le tabernacle, dans le temple. Il y avait comme trois sections. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint, personne n'avait le droit de rentrer, hormis le souverain sacrificateur, une fois par année. Et lorsque Pierre regarde Jésus, il dit, regarde, tu es cet endroit ultra saint, l'endroit le plus sacré, cette présence la plus sacrée de Dieu, elle habite en toi. Tu es la chose, la personne, l'être le plus sacré qui soit. Évidemment, c'est Dieu fait homme. Alors Pierre, lorsqu'il posait les regards sur Jésus, il posait les regards sur Dieu. Et Pierre savait, nul ne peut voir Dieu et rester vivant. Donc il savait que lui aurait dû mourir, que les autres auraient dû mourir, que cette génération aurait dû mourir. Mais il comprenait la grâce de Dieu qui se manifestait à l'instant même, alors qu'il était en train de proclamer que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était ce Christ, était ce Dieu fait homme. Pierre comprenait la grâce qui lui était faite, simplement de comprendre cela, simplement d'être participant de cette expérience, à voir Christ. Il comprenait le privilège qui lui était donné d'être encore vivant et d'expérimenter une telle chose. J'aimerais te poser la question, est-ce que Christ est la chose la plus sacrée de ta vie? Certains vont dire, non, la chose la plus sacrée chez moi, c'est ma santé. D'autres vont dire, non, c'est mes enfants, c'est la chose la plus importante. Certains vont dire, c'est mon époux, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, donc ils vont dire, c'est mon époux ou c'est mon épouse. Certains vont dire, non, je dois penser à moi avant de penser aux autres. Il n'y a pas plus sacré, il n'y a pas plus saint que Jésus. Et Pierre est en train de dire, Seigneur, à qui irions-nous? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que toi? À un moment donné, les disciples vont dire, mais Seigneur, on a laissé tout pour toi. On a abandonné famille, travail, vie pour toi. Donc, ils avaient tout abandonné. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils étaient insensés? Est-ce qu'ils étaient endoctrinés bizarrement? Non, c'est qu'ils avaient compris qui était Jésus. Et ils se disaient, ben, il n'y a rien de plus qui compte que ce Seigneur-là. Et ils savaient qu'en venant à Christ, Christ allait prendre soin d'eux. Qu'en venant vers Dieu et qu'en travaillant pour Dieu, Dieu allait aussi prendre soin d'eux, allait prendre soin de leur vie, allait prendre soin de leurs proches. Je t'invite, remets Jésus à l'endroit qui lui est dû dans ta vie. Qui n'est pas la deuxième, qui n'est pas la troisième, qui n'est pas la quatrième ni la centième priorité de ta vie. Mais Christ devrait être la première et absolue priorité de ta vie. Jésus va dire à un moment donné, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il va le proclamer lorsque il va être mis en tentation, en disant, voilà ce qui compte absolument. Alors que Jésus avait faim, qu'il venait de jeûner pendant 40 jours et que le diable le tente en lui disant, mais change ces roches en pierre. Et Jésus va répondre au diable, mais il y a des moments où le pain de cette terre n'est pas important. Ce qui compte, ce qui est primordial, c'est le pain qui vient du ciel. Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. il devrait être la chose la plus importante pour toi. Il devrait effectivement être le saint de Dieu dans ta vie. Il devrait être le très saint dans ta vie. Il devrait être cette absolue, parfaite sainteté dans ta vie. Alors je prie aujourd'hui que tu remettes Jésus en priorité sur toute ton existence. Si Jésus est effectivement la priorité dans ta vie, tu auras cette même réponse lorsqu'il te demandera peut-être « Est-ce que tu ne veux pas partir comme les autres ?» Et de façon spontanée, remplie d'émotion, tu seras à même de lui dire « Seigneur, mais à qui irai-je ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et Seigneur, j'ai cru et j'ai connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. » Je prie que ce soit ta proclamation aussi ce matin. Alors on va prier. Seigneur, j'aurais envie simplement ce matin de répéter pour moi, mais pour ma sœur et mon frère aussi, cette même déclaration de Pierre. Une déclaration, Seigneur, majeure. Une déclaration, Seigneur, qui devrait changer une vie. Une déclaration qui, lorsqu'on est tenté d'aller ailleurs, devrait nous garder près de toi. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Saint de Dieu. Seigneur, à qui irai-je sinon qu'à toi? Car tu es le seul qui a les paroles de la vie éternelle et les paroles qui nous mènent vers la vie éternelle. Seigneur, j'ai cru, j'ai expérimenté et je me suis associé à toi. Toi qui es le Christ, le seul, l'unique, le parfait sauveur pour l'humanité. Seigneur, nos yeux ont contemplé la gloire de Dieu fait homme. Et nous te voyons encore agir aujourd'hui. Seigneur, je veux te dire, je ne vais nulle part d'autre. Je vais nulle part ailleurs. Je veux être près de toi, non seulement de ce côté-ci de l'éternité, mais aussi pour l'éternité. Je prie, Seigneur, que ce matin, de telles décisions soient prises par nos amis qui se joignent à nous aujourd'hui, qui peut-être n'ont jamais pris cette décision à ton égard. Mais je prie, Seigneur, qu'ils fassent cette prière en demandant grâce pour les péchés qui sont les nôtres et en invoquant que tu es le Seigneur et l'unique Sauveur pour l'humanité et pour eux. Je prie, Seigneur, que tu puisses effectivement les sauver et être leur Seigneur. Et je prie, Seigneur, si certains d'entre nous s'étaient éloignés, je prie, Seigneur, parce qu'ils ont encore le souffle de vie, parce qu'ils en ont encore l'occasion ce matin, je prie, Seigneur, qu'ils retournent à toi, en sachant ce qu'ils ont cru, en sachant ce qu'ils ont connu, et qu'aujourd'hui, Seigneur, ce soit un jour de décision pour plusieurs de revenir au Sauveur, de revenir au Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les cœurs ce matin. Nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors, petite salutation à ceux qui se sont joints à nous depuis nos dernières salutations ce matin. Je ne me rappelle pas si j'ai salué Didier, mais sinon je le salue. Jonathan, ma belle-mère, soyez bénie. La sœur Samek, bonjour, soyez bénie. Laetitia, contente de t'avoir, sois bénie. La sœur Sylvia de Gatineau, soyez bénie. Max, Noémie, bonjour, Dieu vous bénisse. La sœur Ozanie, le frère Gilbert, Dieu vous bénisse. Ma sœur et puis mon beau-frère et les neveux, Dieu vous bénisse. Diana, Dieu vous bénisse. Adriana, Dieu la bendiga. Hélène, Dieu te bénisse, content de t'avoir avec nous ce matin. Que le Seigneur te fortifie. Jimmy, Dieu te bénisse. Aneris, God bless you, Dieu te bendiga. Prime Time Training, Dieu vous bénisse, content de vous avoir avec nous ce matin. Farley, Marie, Dieu André, Dieu vous bénisse. Eric, bonjour, la sœur Nina, le frère Rigoberto, bonjour, la sœur Gisela, bonjour. La sœur Denise, cette fois-ci de Sainte-Adèle avec le frère Gérard, soyez bénis. La sœur Suze, bonjour. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Donc, juste vous rappeler quelques annonces importantes. Ce soir, 19h, notre temps de prière et d'intercession. On se branche à 19h moins 10 environ pour prendre un temps pour vous saluer. On a 5 minutes de louange, puis on a des prières suivies. Et par la suite, un temps concernant les requêtes et besoins que vous aviez, de même que Action de grâce. Donc, soyez là à partir de 19h, 18h50, 19h, on débute officiellement. Demain matin, 10h, Assemblée des hommes. Donc, tous les hommes sont invités à se rendre à l'église. Amenez votre masque, sinon on vous en donnera ici, mais si vous en avez, amenez-les s'il vous plaît. Et puis, à 10h, on débute de 10h à midi sous la thématique Être un soldat de Dieu ou l'engagement du soldat. Donc, on vous invite à être là demain matin, tous les hommes, à 10h. De surcroît, cela, vous avez encore environ une heure pour vous inscrire pour l'assemblée de dimanche, si vous voulez être sur place avec nous. Donc, vous écrivez un courriel à l'église. Le courriel, c'est secrétariat EAJC à commercial@gmail.com. Vous nous donnez votre nom, votre numéro de téléphone, votre courriel, et puis le nom précis des personnes qui vous accompagnent. Vous devez avoir 30 ans et plus, bien sûr. Les plus jeunes sont avec l'Assemblée des jeunes de ce soir. Donc, vous faites cela. Vous avez encore environ une heure pour vous inscrire. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas. Et puis, ça facilite le travail de la sœur Patricia pour qu'elle puisse vous contacter et confirmer votre présence avec vous. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir pour l'intercession. On se retrouve demain pour tous les hommes ici même à l'église. Et puis par la suite, dimanche matin, que ce soit sur les ondes d'Internet ou sur place ici même à l'église. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée tous et chacun. Bye bye.